Bon, politique à Québec, passation des pouvoirs, hier rencontre entre Philippe Couillard et François Legault. Ça s'est fait dans une ambiance, assez détendue, là. Et il y a ce qui a retenu l'attention parallèlement, c'est plutôt le caucus libéral. Alors que Pierre Arcan a été choisi chef intérimaire du Parti libéral du Québec. C'est pas une très grande surprise. Remarquez bien, parmi les noms qui avaient circulé, il y avait celui de Christine Saint-Pierre, Pierre Arcan, et de Gaétan Barrette. Mais bien honnêtement, là, je crois pas que je peux même pas penser que le principal intéressé pendant 5 minutes a cru qu'il avait des chances d'être élu chef intérimaire. Par l'aspect corrosif de la personne, un chef intérimaire, ça le dit, là, c'est quelqu'un qui va mener les rênes en attendant, qui fera pas taureau de vague et surtout qui suscitera pas la controverse au sein même du parti, ce qui est l'antithèse de Gaétan Barrette. Donc, on y va avec le député de Mont-Royal, qui est là depuis un certain temps, Pierre Arcan, qui n'a pas de faute à sa feuille de route jusqu'à maintenant. On sait qu'il n'y aura pas de scandale l'entourant non plus. Donc, lui, il va assurer. Puis en même temps, ben le plus gros du jeu qu'il a à faire, c'est de bien donner les responsabilités au cabinet fantôme parce qu'il y a des aspirants au titre de futur chef parmi la députation déjà élue. On le sait, pour Dominique Anglade, c'est quelque chose qui est assez pressenti. Sébastien Proulx également, même s'il n'a pas voulu nous le dire en entrevue le soir des élections, que c'est quelque chose qui l'intéresse. Certains le prêtent également à Marois Risky, même si elle est toute une verte recrue en politique. Il pourrait y avoir de ces gens donc intéressés. André Fortin également, qui était ministre des Transports, qui pourrait devenir lui aussi éventuellement un candidat sur la courte liste pour succéder à Philippe Couillard comme chef du Parti libéral du Québec. Puis là, tu veux pas donner plus de temps de parole à un qu'à l'autre pour que chacun ait la façon de se faire valoir. Mais l'autre élément qui a surtout fait réagir, c'est que Guy Ouellet a été exclu du caucus libéral. Ça non plus, c'est pas une très grande surprise. Alors qu'à quelques jours du scrutin, il était trop tard pour les libéraux de dire nous autres, on n'en veut plus de Guy Ouellet, puis on le débarque de l'équipe parce que tu es à quelques jours du scrutin, tu peux pas présenter de nouveau candidat, donc tu vis avec, mais sachant très bien que s'il était élu, tu le garderais pas au sein de ton équipe. En vertu des informations qui ont circulé sur lui, qu'il fournissait des informations au parti adverse sur ses propres troupes pour faire mal paraître certains membres du gouvernement, certains de ses collègues ou des gens qui avaient été nommés par le gouvernement. Donc, c'est une question de temps avant qu'on le débarque de là. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver de Guy Ouellet? Est-ce qu'il va rester en place comme indépendant? Est-ce qu'il va tenter de joindre un autre parti? Puis, si t'es un autre parti, est-ce que tu veux avoir quelqu'un comme lui dans ton rang, sachant ce qu'il a fait auparavant? Ça, la question se pose. Ou il démissionne, puis on repart en partiel dans ce coin-là. Aucune idée, on verra bien. C'est au courant des prochains mois. Donc, la scène politique s'annonce quand même intéressante. Puis, il y a une analyse qui a été réalisée par la presse aujourd'hui sur le scrutin de cette semaine, de lundi, à savoir qui a voté et où. Et surtout, qui n'est pas allé voter. Comment on explique que les sondages étaient si loin? Peut-être pas dans la déconfiture du Parti québécois, ni la poussée de Québec solidaire, mais la popularité de la CAQ versus celle du Parti libéral. Peut-être une piste d'explication, puis c'est pas un sondeur qui nous arrive avec ça, là. C'est l'analyse des boîtes, finalement, et celle de l'éclairage de Jean-Hermann Gué, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Laval. Autrement dit, ce que ça dit, c'est pas compliqué, c'est que les libéraux sont pas sortis voter, les voteurs caquistes sont sortis un peu plus et ont pu prendre du vote du Parti québécois pour avoir autant de votes. Et ça, les sondeurs les avaient sous-estimés, ces appuis-là. Juste en termes de chiffres, vous donner une idée, là, il y a 750 000 votes de moins pour le Parti libéral. Puis ça parle dans certaines circonscriptions qui sont des châteaux forts, là. On donnait l'exemple d'une circonscription, je me souviens plus laquelle, entre autres, là. Mais c'est une circonscription où c'est celle de Carlos Letao. Il a perdu 14 000 voix. Donc, le taux de participation est passé de plus de 70 % à 56 à l'élection de lundi. Donc, le vote libéral n'est pas sorti. Pourquoi? Ben, on soupçonne que dans des communautés plus anglophones, le fait qu'il n'y ait pas de polarisation fédéralisme versus souveraineté, ça n'a probablement pas incité des gens à sortir. Ça, c'est une analyse qu'on pouvait faire même déjà le soir du vote. Et ça s'explique de cette façon-là. Et la majorité, lorsqu'on le prend, là, c'est qu'on voit que dans une circonscription type, là, dans les circonscriptions gagnées par la CAQ, c'est que le vote péquiste a flanché pas mal, Le vote libéral, même chose. Tandis que le vote de Québec solidaire, lui aussi, est sorti en plus grand nombre. Donc, voilà pour l'analyse politique. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur l'affaire Kavanaugh parce qu'on y reviendra tout à l'heure avec Valérie Beaudoin qui sera avec nous dans un peu plus d'une heure pour parler de ce vote qui aura lieu aujourd'hui. On devrait confirmer donc que Brett Kavanaugh sera le choix du sera le futur. Il aura l'autorisation donc du comité sénatorial et deviendra juge de la Cour suprême. Mais moi, c'est les enjeux sous-jacents qui m'intéressent aussi. Et Yves Boisvert dans la presse, de façon assez Claire nous explique que, dans le fond, ce qui se joue là, puis on le savait, là, c'était la majorité conservatrice à la Cour suprême. Ce qui n'a jamais été possible pour même la droite religieuse américaine de penser qu'ils pourraient devenir en contrôle, ce qui a été impossible pour eux au courant des dernières années, en contrôle du plus haut tribunal du pays. Ça semble complètement fou de parler de ça en termes de contrôle comme celui-là, entre les mains de politiciens, mais c'est comme ça que le système américain marche de nomination de juges. Mais ce que l'on voit ici, pour Brett Kavanaugh, entre autres, et ce que ça met en lumière, c'est est-ce que l'avortement redeviendra illégal? Est-ce que la Cour suprême pourrait supplanter une décision qu'elle a elle-même rendue, pas il y a 3 ans, il y a 45 ans? Donc, les États-Unis referaient un bond 45 ans en arrière. Et ce que Boisvert dit, sous-estimer jamais à quel point il y a une droite religieuse qui est très, très présente, pas dans les centres urbains, puis ils ne représentent pas une majorité de gens, mais ils ont assez d'appui pour avoir assez de voix qui parlent pour eux dans les différentes chambres aux États-Unis. Et ce qui amènerait justement puis cette décision-là. Et lui, il dit, quand j'ai fait ma tournée électorale, là, si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu des gens « Jamais je voterai pour Hillary Clinton à cause qu'elle appuie l'avortement. » Moi, je vous dis, je me souviens entre autres d'un débat, c'est celui en forme Town Hall qui avait lieu dans la course présidentielle entre Hillary Clinton et Donald Trump. Je vous dis, là, c'était hallucinant parce qu'on se dit c'est pas un débat ici. Les dix premières minutes ont été sur le contrôle des armes à feu, où on était en train de dire qu'il n'y en aurait pas de contrôle des armes à feu. Les deux candidats disaient la même chose. Et l'autre 5 minutes, c'était sur l'avortement. Une question, décision de la Cour suprême des États-Unis, Roe contre Wade, 1973, rendait légal l'avortement. On pourrait retomber en arrière là-dedans. Puis là, vous comprenez qu'il y a des groupes là-dedans, il y a plusieurs groupes communautaires, un groupe de femmes qui s'élèvent en disant « on ne peut pas croire que... » on fera un pas en arrière comme celui-là, alors que plusieurs sociétés, vous voyez, l'Irlande s'est même prononcée à ce sujet-là il n'y a pas si longtemps, pour entériner. On se disait, coudonc, l'Irlande, un pays occidental, un pays développé, qui est encore où l'avortement est encore interdit, bien, aux États-Unis, ça pourrait redevenir interdit. Là, on est dans vraiment dans la spéculation. Là. On n'en est pas rendu là, mais on pense que ça pourrait devenir le cas. Histoire mystérieuse, s'il en est une, c'est celle de la disparition du président chinois d'Interpol, Meng Hongwei, qui habite à Lyon. Le quartier général d'Interpol, la police internationale, entre autres du regroupement des services de police internationaux, est à Lyon, en France. Et il était à Stockholm, en Suède, prend un vol vers la Chine, son pays d'origine, et depuis, il est disparu. Sa femme soutient qu'ils ont eu des menaces par les médias sociaux, mais également par appel téléphonique, et depuis, on est sans nouvelles. Et là, c'est une enquête pour disparition qui a été ouverte en France, et c'est le ministre de l'Intérieur qui en a fait part de son interrogation, justement, sur la disparition de cet homme de 64 ans-là, en se disant préoccupé. Et certaines sources font état d'une... On se demande si les autorités chinoises pour l'instant, on n'a pas de précision, mais n'aurait pas arrêté l'homme en question pour lui poser une série de questions. Il aurait été amené par des autorités dès son atterrissage. Qui dit ça? C'est le South China Morning Post, qui est le quotidien anglophone de Hong Kong. Et selon des autorités compétentes, on s'est dit finalement qu'on avait averti là, les membres d'Interpol que c'était survenu, mais pour l'instant, il y a une espèce de flou autour de cette... C'est quand même pas banal, là, quand on parle du président d'Interpol arrêté pour une histoire qui daterait de plusieurs années où il serait une personne d'intérêt. Elle lâche la pilule anticonceptionnelle à cause des risques de nous dire le Journal de Montréal aujourd'hui. De plus en plus de Québécoises vont vers d'autres moyens de contraception. Puis en gros, si je vous résume ça, si on voit les nouvelles ordonnances, c'est en baisse. Là, depuis 2015, 2016, 2017, il y a une baisse constante. Pour le renouvellement d'ordonnances, c'est un peu la même chose également. Il y a 50 000 en moins entre 2015 et 2017. Et même chez les médecins, ce que l'on dit, il y a d'autres alternatives. Puis c'est devenu une espèce d'automatisme. Il y a des rencontres qui se font rapidement, puis on passe ça vite, vite. Oui, vous voulez avoir un moyen de contraception, prenez la pilule, merci, bonsoir, puis on donne l'ordonnance, puis ça finit là. Or, même au Collège des médecins, on dit que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire non plus. Et surtout que ça fait pas tout le monde. Et de prendre de toute façon une pilule comme celle-là pendant des années durant, ou vous renouveler, c'est pas non plus l'idée du siècle. C'est le moment peut-être de prendre un peu plus de temps. Et il y a d'autres alternatives aussi que la pilule anticonceptionnelle que l'on connaît. Mais ce sont les effets secondaires, semble-t-il, qui pousseraient le plus certaines femmes à y renoncer. Si c'est une moins bonne nouvelle en santé, il y en a une bonne en tout cas pour les gens qui sont atteints de sclérose latérale amyotrophique, la fameuse maladie de Lou Gehrig, vous savez, celle pour laquelle on a fait le Ice Bucket Challenge il y a quelques années. Là. Il y aurait un médicament bientôt approuvé par Santé Canada qui n'empêcherait pas la SLA, mais à tout le moins qui permettrait de réduire, retarder sa progression de près de 33 % selon ce que peut... Et les gens qui sont atteints, qui ont voulu avoir ce traitement-là, ont dû se déplacer au Japon, aux États-Unis, ça coûte une fortune. Mais là, maintenant, il est autorisé par Santé Canada et on pense que d'ici peu, il sera disponible. Traitement qui n'est pas donné quand même. Une dame raconte avoir payé quelque chose comme 50 000 $ jusqu'à maintenant dans sa lutte contre la sclérose latérale amyotrophique. Maladie épouvantable si vous ne la connaissez pas. Ça touche votre système nerveux. Devenez prisonnier de votre corps carrément. Et toutes les fonctions de votre corps vous lâchent tranquillement pas vite. Sauf une, vos fonctions cérébrales, vous êtes entièrement conscient de cette espèce de prison intérieure dans laquelle vous êtes prise. Et ce que raconte, c'est que la durée de vie, normalement, pour les gens qui en sont atteints, c'est à peu près 3 ans. Mais il y a eu des cas d'exception. Stephen Hawking, je pense, entre autres, en est un cas, lui, qui est exceptionnel, atteint quand même dans son jeune âge. Et il est décédé tout récemment, il y a quelques mois à peine. Les négociations en santé, ça va pas bien. Le plus gros du problème, c'est des négociations locales, de nous dire le devoir. Pourquoi? La réforme de la santé a créé d'énormes territoires en santé. Et on se retrouve avec des gens qui doivent être plus mobiles sur leur territoire. Donnez un exemple, celui que les gens de l'Estrie connaissent. Le CIUS de l'Estrie-CHUS, quoi, il fallait trouver un nom encore plus long, ça part de la région de Granby jusqu'à la région de Lac-Mégantic. Vous prenez ce coin-là jusqu'à la frontière américaine, vous passez un balai là-dedans, là, c'est sous la même responsabilité du même territoire administratif de la santé. Ce qui fait que il y a des gens qui doivent être un peu plus mobiles. Et on leur demande d'être plus mobiles selon leur travail. Et ça marche pas. Mais avec les syndicats locaux, les négociations avortent. Puis ce qu'on raconte, c'est qu'il y a même plusieurs qui ont quitté la table. Puis dans le délai prévu, il y en a un méchant paquet qui n'ont pas réussi à régler. L'abbaye, ça va pas bien non plus dans les négociations. Puis le gouvernement pourrait s'en mêler. En tout cas, c'est ce qu'il avait promis en campagne électorale. Puis le député Donald Martel, qui était de la coalition Avenir Québec, a été réélu. Son parti est au pouvoir maintenant. Est-ce que ça va changer quelque chose? Mais les négociations sont suspendues. Je vous rappelle que c'est quand même plus de 1000 travailleurs sur la rive sud de Trois-Rivières. Beaucoup de gens qui habitent Trois-Rivières aussi, qui sont en lock-out depuis maintenant le mois de janvier. Puis on voit pas l'heure où tout ça sera réglé. Et Stephen Harper prend la plume ce matin. Il prend la plume ce matin, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous raconte, mais ce sont des pans de son livre qui va être publié le 9 octobre prochain, donc cette semaine, qui va parler de la politique. Et il dit « Right here, right now, la politique et le leadership à l'âge de espèce de désillusion », c'est son nouveau livre qui va sortir bientôt, où il parle du populisme. En gros, là, le National Post, le Globe and Mail présente des extraits de ce livre-là. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Habituez-vous, parce que c'est la recette gagnante du futur politicien. C'est selon le guide du nouveau politicien, le client aura toujours raison. Donc, dites-lui ce qu'il veut entendre, là, puis vous allez être capable de vous faire élire. Et ce n'est pas un accident de parcours, ce qui s'est passé avec Donald Trump. Et ceux qui pensent que c'est un accident de parcours se mettent un doigt dans l'œil et c'est là pour rester. En gros, c'est un peu ce que résument ces différents extraits présumés qui sont présentés aujourd'hui dans les quotidiens anglophones du nouveau bouquin de Stephen Harper.